Le texte que je vais vous lire est à nouveau un texte un peu long comme la semaine dernière. Et c'est dans la suite du texte de la semaine dernière. Nous avions lu le récit de l'aveugle né, c'était dans Jean 9, l'évangile de Jean. Et nous continuons, nous allons un peu plus loin dans notre récit de l'évangile de Jean et nous allons lire au chapitre 11, le récit de Lazare. Probablement vous avez entendu ce récit déjà. Alors, comme c'est un long texte, je vais faire quelques pauses, comme la semaine dernière, et nous aurons aussi un petit moment de musique dans cette lecture pour que vous puissiez la laisser résonner, vous l'approprier. Jean 11. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. » C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement il dit aux disciples, « Retournons en Judée ». Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment encore, les autorités juives cherchaient à te lapider et tu veux retourner là-bas ? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche 2 jours, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche 2 nuits, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de sa mort, de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyiez, mais allons à lui. » Alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi et nous mourrons avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était déjà depuis 4 jours. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup d'habitants de la Judée étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, « mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui répondit, « ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là et il t'appelle. À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Judéens étaient avec Marie dans la maison, et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, et ils la suivirent, et ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à terre, à ses pieds, et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Judéens qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Et il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Judéens disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors à nouveau Jésus frémit intérieurement, et il s'en fut au tombeau. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de ces Judéens qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais d'autres s'en allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent, « Que faisons-nous? Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer, ainsi tous croiront en lui. Les Romains interviendront et ils détruiront et notre saint lieu et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là, dit, « Vous n'y comprenez rien. Et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Ce n'est pas de lui-même qu'il prononça ces paroles, mais comme il était grand prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation, et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. C'est ce jour-là donc qu'ils décidèrent de le faire périr. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions chanter le psaume 42, les strophes 1, 2 et 3. Alors, après avoir lu la semaine dernière le récit de la guérison de l'aveugle né, nous réfléchissons cette semaine, aujourd'hui, à partir de la résurrection de Lazare. Je vais vous proposer une réflexion en 2 temps. D'abord, une série de comparaisons à partir d'éléments tirés du texte. Et puis ensuite, dans un 2e temps, la question de savoir comment cette histoire nous rejoint, nous, aujourd'hui, près de un peu plus de 2000 ans après. Je commence ces comparaisons. Tout d'abord, Marthe et Marie. Ce sont 2 sœurs. 2 sœurs et 2 façons de croire, 2 façons d'être face à la perte de leur frère. Marthe va au-devant de Jésus alors que Marie reste dans la maison. Elle ne viendra vers Jésus que lorsqu'elle sera appelée. Deux sœurs qui ont la même réaction, en tout cas qui ont un commencement de réaction identique. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Marthe ajoute qu'elle sait que Jésus peut demander à Dieu de relever son frère, alors que Marie n'ajoute rien. La foi de Marthe, c'est celle du judaïsme orthodoxe de l'époque. Elle croit en une résurrection au dernier jour, c'est-à-dire qu'elle croit en une fin des temps. C'est une résurrection théorique qui n'est de toutes les façons pas pour maintenant. Marie se lamente et ceux qui étaient avec elle ne savent pas comment la consoler. Alors, contrairement à sa sœur, Marie n'ajoute rien aux reproches faits à Jésus, mais cependant, après s'être levée impulsivement pour aller vers lui, elle était tombée à ses pieds. Elle arrive, elle se met à genoux devant lui. Marie, nous dit Jean, c'est elle qui a essuyé les pieds de Jésus après, un peu plus loin, avec une huile parfumée en utilisant ses cheveux. Donc, sa foi passe par des gestes, par l'expression de son corps, et non par des paroles savantes, dogmatiques, théoriques. Marthe et Marie, ce sont deux façons de reprocher à Jésus son absence pendant la maladie de leur frère. Deux façons différentes d'exprimer tout à la fois de la colère, de l'amertume, du reproche, de la tristesse, et aussi une sorte de foi, malgré le deuil qui les frappe. Alors, de ces deux personnages, j'en déduis qu'il y a une diversité de façons de réagir face à la mort, de croire au-delà, malgré la mort. Et il y a une diversité de façons d'évoluer dans sa foi. Deuxième comparaison, Lazare et Jésus. Deux hommes qui ressuscitent, deux résurrections, deux histoires invraisemblables qui dépassent l'entendement. Mais l'une de ces résurrections, celle de Lazare, est un signe qui annonce l'autre résurrection, celle de Jésus après la croix. Lazare revit, il retrouve sa famille, il reprend son travail, il va vieillir et mourir. Son corps connaîtra la déchéance. C'est une résurrection provisoire. Le signe de cela, ce sont les bandes qui entourent son corps à la sortie du tombeau et qui entravent ses mouvements, sa marche. C'est un peu comme si sa résurrection n'était pas terminée. Il faut enlever ces bandes pour qu'il puisse aller. Contrairement à ce qui s'est passé pour Lazare, on ne trouvera pas le corps de Jésus dans le tombeau. On ne trouvera que les bandes et le linge qui avaient recouvert sa tête. Jésus ressuscite et il apparaît d'abord à Marie de Magdala et puis ensuite aux premiers disciples au premier jour de la semaine. Alors il y a d'autres auteurs dans le Nouveau Testament qui parlent à leur manière, qui témoignent de cette résurrection de Jésus, dit le Christ. L'un de ces témoins majeurs, c'est l'apôtre Paul, qui, bien que n'ayant pas connu Jésus avant la croix, dit l'avoir vu. C'est un texte important, notamment, je pense, à la lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. La résurrection de Jésus est entière et définitive, alors que celle de Lazare est incomplète et provisoire. D'un côté, Lazare, enveloppé de ses bandes, et de l'autre, le tombeau vide. Alors voici ma troisième et dernière comparaison. Il y a plusieurs façons de comprendre pour soi-même, de s'approprier la résurrection de Jésus le Christ. Et je vous en propose deux. Première compréhension, je considère que la résurrection de Jésus m'ouvre un avenir pour plus tard. Elle m'ouvre la porte d'un lieu merveilleux dans lequel je pourrai aller à la fin de ma vie. En attendant, je vais essayer de faire de mon mieux. J'essaye de comprendre la grâce de Dieu dans mon quotidien. C'est une compréhension qui oublie l'avenir, qui oublie l'aujourd'hui, pardon, et qui porte toute son attention sur un avenir dont je ne maîtrise pas l'échéance. Le risque de cette compréhension, de cette première compréhension, c'est d'être dans une sorte de fuite ou d'avenir mystique. À quoi bon essayer de réussir sa vie, puisque de toute façon nous avons la promesse de réussir au dernier jour. Il y a quelque chose de résigné aussi dans cette position, et on y retrouve là la première compréhension de Marthe lorsqu'elle parle de sa foi en la résurrection, qui pour elle est une résurrection au dernier jour. La deuxième compréhension que je vous propose, vous en doutez, un peu opposée, eh bien je considère que Jésus est ressuscité que dans la tête des premiers disciples et que ce qui m'importe, c'est son enseignement pour moi aujourd'hui, ce qu'il me permet de vivre dès maintenant, dans le changement de mes relations à moi-même et aux autres. Je mourrai un jour, ça c'est sûr, comme Jésus est mort. Et je ne m'en soucie pas, parce que je ne me soucie pas du néant. Ce qui compte pour moi, c'est aujourd'hui. C'est une compréhension qui ne se préoccupe pas de l'avenir et qui porte toute son attention sur maintenant. Le risque de cette compréhension, c'est peut-être de réduire l'ampleur de la résurrection à ce que je vis aujourd'hui. Bon, ce n'est déjà pas si mal, hein. Mais finalement, pourquoi parler encore de résurrection ? C'est contre cette position adoptée par certains Corinthiens que Paul, à un moment donné, dans cette lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, bien Paul se fâche et il leur dit à ces Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. » Alors en lisant Paul, on se dit que, quelle que soit notre compréhension particulière de la résurrection, il ne s'agit pas d'un phénomène purement imaginaire, d'un simple effet de littérature, de narration, mais il s'agit d'un événement qui affecte pleinement notre vie dans toutes ses dimensions. Dans notre texte, Jésus dit à Marthe, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Sur cette parole, j'ai deux remarques. Tout d'abord, vous l'avez entendu, il y a du présent et il y a du futur, de l'avenir. Il y a une tension entre ce que les théologiens aiment bien appeler le déjà-là et le pas encore. Et c'est cette tension qui nous met en marche, qui ne nous laisse pas nous dégager du présent pour nous enfermer dans un futur mystique et qui en même temps ne nous laisse pas nous contenter d'un raisonnable maintenant. Cette tension nous fait avancer sur un chemin de transformation. Elle produit une dynamique en nous. C'était ma première remarque. Voici la deuxième. Jésus n'occulte pas la question de la mort physique. Mais ce qu'il annonce la dépasse et lui enlève son pouvoir. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors voilà le deuxième versant de notre réflexion. Nous avons opéré trois comparaisons. Et maintenant, la question c'est de savoir comment cette histoire nous rejoint, nous, aujourd'hui. Au travers de cette histoire, c'est déjà un peu le récit de Pâques que nous abordons un peu. C'est un récit que nous allons lire dans deux semaines. Qu'est-ce que cela produit concrètement dans nos existences ? Dans notre vie courante, on peut recevoir certains événements comme des signes de résurrection, qui parlent de résurrection. Je prends quelques exemples. Le retour à l'emploi après une longue période de chômage, la sortie d'une longue maladie, la réconciliation dans une famille entre deux frères, par exemple, nous lisions cette semaine l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Et puis, il y a des signes beaucoup plus modestes auxquels on ne fait plus attention. Alors, par exemple, il y a le printemps en ce moment dans le bois de Vincennes, si vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et puis, encore plus modeste, on y fait encore moins attention, le soleil qui se lève tous les matins. Moi, il m'arrive de penser aux premiers hommes, aux hommes primitifs, hein, ceux qui vivaient durement et qui sentaient peut-être monter en eux un sentiment de reconnaissance le matin lorsque le soleil sort, parce qu'ils avaient survécu au danger de la nuit. À la campagne, le chant des animaux le matin, quand le soleil se lève, parle un peu de cela. Alors, Lazare qui sort du tombeau, mais c'est un signe de résurrection, mais c'est un signe de résurrection poussé à son extrême. C'est le septième signe raconté par Jean dans son évangile. Vous savez, il y a sept signes. Et nous avions lu la semaine dernière le sixième, l'avant-dernier, et nous avions dit qu'il y avait une progression dans l'intensité de ces signes. Le récit de Lazare est donc un sommet l'évangile de Jean. Jésus opère ce qu'il y a de plus impressionnant pour convaincre qu'il est l'envoyé de Dieu. Beaucoup croiront en lui, mais un noyau d'irréductibles continuera de s'obstiner à le rejeter. Mais si vous voulez bien, revenons à notre vie courante. Je parlais de signes de résurrection. Je crois qu'il y a aussi des signes de mort. Peut-être ce matin, parmi nous, il y en a qui travaillent dans des hôpitaux, peut-être des médecins, des infirmières, peut-être dans des centres de soins, des centres sociaux. Je sais que quelques-uns parmi nous sont engagés, par exemple, dans le collectif des morts pour la rue, des morts dans la rue. Ils dénoncent ces morts dans la rue et ils essayent d'agir pour les vivants. C'est un lieu impressionnant. Il y a toutes sortes de drames, quotidiennement. Des accidents de voiture, des gens qui meurent trop jeunes, des catastrophes. Le signe de la résurrection de Lazare est aussi un signe de mort, parce que ce jour-là, les autorités juives décident de faire mourir Jésus. Jésus, le Christ, nous rejoint dans ces signes de mort. Il est passé lui aussi par la mort. Paradoxalement, la résurrection de Lazare annonce la condamnation de Jésus. Mais le signe de retour à la vie de Lazare est surtout là pour nous dire, comme le texte le dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour nous convaincre que Jésus est l'envoyé de Dieu, que sa proximité avec Dieu est telle qu'il a pleinement la capacité de relever Lazare. Il faut bien comprendre que ce miracle n'a pas sa fin en soi, comme d'ailleurs tous les autres signes dans l'évangile de Jean. Il n'est qu'un signe pour annoncer autre chose, la mort de Jésus sur la croix et surtout sa résurrection. Au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est notre mort et notre résurrection que le signe de Lazare annonce. C'est le sens de notre baptême. Mort, résurrection, le symbole de l'eau. Vie renouvelée, transformée, dès maintenant, au bénéfice de ce que nous appelons la vie éternelle. Vie éternelle qui commence dès maintenant, tout de suite, en route vers le pas encore, vers la fin de la peur de la mort physique qui, de toute façon, est inéluctable. Alors, ça a l'air formidable, dit comme ça. Mais c'est une très longue route, je pense que vous le savez. Il y a des hauts, des bas. Dans notre récit, nous savons que nous avons vu, peut-être l'avez-vous repéré, que Marthe évolue dans sa compréhension de qui est Jésus. Elle part d'une foi orthodoxe dans la tradition des pharisiens, et puis elle évolue vers une belle confession de foi. Elle répond, lorsque Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie », là, elle répond avec enthousiasme, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Mais pourtant, après cette belle confession de foi, sincère certainement, elle va douter lorsqu'elle demande à Jésus. Lorsque Jésus demande qu'on roule la pierre, Elle dira, « Seigneur, il doit déjà sentir, il y a 4 jours. » Et Jésus qui lui répond, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors c'est un long chemin, mais c'est un chemin certain. Faut-il absolument être convaincu que Lazare passe de la mort à la vie ? Probablement plusieurs parmi vous ici n'y croient pas, pas du tout. Je connais bien un pasteur de ces lieux qui un jour m'a dit que pendant ses nombreuses années de ministère, il n'avait jamais vu aucune personne inhumée se relever. Alors je comprends qu'on puisse se poser des questions sur ce récit de Lazare. C'est bien normal. Il y a peut-être quelque chose d'enfantin à persister à croire que cette histoire s'est réellement passée. Mais cela étant, vous vous souvenez sûrement que Jésus disait que le royaume était pour ceux qui ressemblaient aux enfants, qui sont comme les enfants. On trouve ça dans Matthieu, dans Luc, dans Marc. Nous avons tous des parcours différents. Et les raisons qui nous poussent à être là ce matin sont différentes. Il y a des croyants comme Marthe, il y en a comme Marie, et puis probablement d'autres encore. Chaque chemin est singulier. Quelle que soit la façon dont nous comprenons Jésus, lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie », nous pouvons croire que nous sommes intégrés dans un vaste projet de vie dont nous ne parvenons pas à saisir toute l'ampleur, parce que cela dépasse notre entendement. Il faut être clair, Jésus ce n'est pas le super-héros qui vient tout résoudre à coup de miracle. Alors nous avons plus ou moins du mal à l'admettre, ça dépend un peu des moments. En tout cas, avec les signes qu'il accomplit, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il ouvre devant nous le chemin de la vie ressuscitée au travers de toutes les épreuves et de toutes les difficultés. Ressusciter ne dépend pas de nous, mais cela nous est offert. Alors pour conclure, je crois qu'il y a une très grande proximité de sens entre les verbes « naître », « vivre », « croire », « louer Dieu », « se réjouir », « respirer » et « ressusciter ». Amen.